Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Grâce aux reporters d'Europe 1, on va sillonner la planète pendant une heure, voir comment la Terre tourne, partager des tranches de vie. Et notre première destination sera américaine. Les États-Unis vivent le plus long shutdown de son histoire. Un blocage budgétaire qui a des conséquences très concrètes. On va voir lesquelles avec Xavier Yvon. Et pendant ce temps, les nouveaux élus du Congrès font leurs premiers pas. Parmi les nouveaux visages, pas mal de femmes issues des minorités qui n'ont pas fini de faire parler d'elles. On va faire leur connaissance. On s'intéressera aussi au sort de la jeune Rahaf, saoudienne de 18 ans, qui a demandé l'asile politique lors d'une escale en Thaïlande. L'occasion de mettre le doigt sur un phénomène plus courant qu'on croit, les tentatives d'évasion de femmes issues de pays musulmans rigoristes. Tout près de là, le Cambodge fêtait cette semaine les 40 ans de la fin de la dictature khmère, la fin d'un régime qui a fait vivre l'enfer à son peuple. Ça laisse des traces encore aujourd'hui, on va écouter les Cambodgiens. Et puis nous irons aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, deux îles outre-mer qui subissent toujours aujourd'hui l'utilisation massive dans les années 70 et 80 d'un insecticide dans les bananeraies, le chlordécone, qui va contaminer les sols pour des centaines d'années encore. Mathieu Bock a mené l'enquête là-bas. Quant à Nicolas Caro, il va nous faire découvrir une auteure nigériane. Et Joseph, il explore les bienfaits de la vie nocturne des pays où il aime voyager. Les carnets du monde sont ouverts, direction l'Amérique. Première semaine mouvementée pour le nouveau Congrès américain. Entre le bras de fer sur le shutdown et l'entrée en fonction de jeunes élus UES, des femmes qui défrayent la chronique, on en parle dans les carnets avec deux correspondants d'Europe 1 aux États-Unis, Sonia Dridi à Washington et Xavier Yvon à New York. Bonjour les amis.
Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Sonia, le Congrès américain, c'est chez vous, si j'ose dire. Alors, il a changé de visage. Les nouveaux élus ont fait leur entrée il y a une dizaine de jours et l'hémicycle compte désormais un nombre record de femmes et d'élus issus de minorités. C'est historique, hein. À la Chambre basse, il y a désormais 102 femmes députées, dont 89 démocrates. Et la nouvelle promotion fait déjà beaucoup parler d'elle avec des parlementaires qui ne manquent ni de franchise ni d'énergie. Elles affichent déjà entre elles une grande complicité. Ces nouvelles élues, Sonia, elles sont un peu les stars aux États-Unis en ce moment, non ?
Oui, tout à fait. Ces élus qui rajeunissent les couloirs du Congrès et lui donnent un peu de couleur sont les nouvelles coqueluches de la gauche américaine. C'est assez drôle de les suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux car depuis leur élection, elles posent souvent ensemble en mode photo de famille, se lancent des compliments, se soutiennent et elles ont tout en commun d'avoir redoublé d'envie de se présenter après l'élection de Donald Trump à la présidence et elles ne se privent pas de le critiquer franchement. Par exemple, l'une des jeunes élues, Ilhan Omar, a tweeté il y a quelques jours la présidence de Donald Trump est une urgence nationale. Omar, 37 ans, représente le Minnesota à la Chambre basse. C'est une ancienne réfugiée au Kenya d'origine somalienne. Elle est musulmane et porte le voile. D'ailleurs, le Congrès a changé son règlement intérieur à son initiative pour autoriser le port du voile dans l'hémicycle. Je l'ai rencontrée le jour de la rentrée du Congrès, le 3 janvier. Il y avait une ambiance de folie lorsqu'elle est entrée, toute souriante, dans son bureau, entourée de sa famille et de nombreux soutiens. Aux côtés de son père, avec qui elle était arrivée la veille à Washington, elle s'est confiée à mon micro, les larmes aux yeux.
C'était un moment très émouvant, car lorsqu'on est sorti de l'avion, nous avons réalisé que nous n'étions pas revenus tous les deux ensemble à cet aéroport de Washington depuis le jour où on a atterri ici en tant que réfugiés. Donc, on est vraiment submergés par l'émotion. Comme dit mon père, il avait beaucoup d'espoir pour nous, avec les opportunités qu'on aurait dans ce pays, mais je ne pense pas qu'il imaginait qu'un jour, son bébé irait au Congrès, 20 ans après notre arrivée dans le pays.
Et écoutez son père, il était très ému à ses côtés.
C'est extraordinaire, extraordinaire, j'adore ça.
Ouais, c'est une séquence très forte, hein. En effet, un moment historique pour ce Congrès américain. Au total, Sonia, il y a bien deux élus musulmanes, hein, c'est ça ?
Oui, la seconde s'appelle Rachida Tlaib. Elle a 42 ans et d'origine palestinienne et représente le Michigan. Mmh. Elle a beaucoup fait parler d'elle, hein, le jour de la prestation de serment des nouveaux élus, car elle portait une robe palestinienne traditionnelle, appelée thob en arabe, et des Américains d'origine palestinienne, très fiers, se sont mis à tweeter des photos d'eux portant cette tenue. Je l'ai croisée dans les couloirs du Congrès, très pressée, juste avant sa prestation de serment. Elle me dit qu'elle se sent super bien et que sa priorité pour l'année est la justice pour tous et les lois sur les droits civiques. Alors c'est un ensemble de lois conçues pour interdire la discrimination dans les emplois ou encore l'administration. Et Rachida Tlaib n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Dès le lendemain de sa prestation de serment, elle a fait la une des médias car elle a été filmée en train de dire à ses partisans à propos de Trump « Nous allons destituer ce fils de… » Je vous laisse imaginer la suite. Pour rappel, cette ancienne avocate et activiste avait été arrêté il y a 2 ans pour avoir perturbé un discours de Trump.
Ah oui, deux vieux amis en somme. Elles sont toutes remontées à bloc, ces femmes, et celle qui fait le plus parler d'elles peut-être, c'est Alexandra Ocasio-Cortez, cette jeune élue de New York, suivie par plus de 2 millions de personnes sur Twitter, adulée des démocrates et haïe par les plus conservateurs.
Oui, et à 29 ans, AOC, comme elle est surnommée, est la plus jeune élue de l'histoire du Congrès américain. Pour sa rentrée, elle avait choisi un tailleur pantalon blanc en hommage aux suffragettes qui se sont battues pour le droit de vote des femmes. Elle est d'origine portoricaine, diplômée d'une prestigieuse université. Et après la mort de son père, elle est retournée vivre chez sa mère dans le Bronx et elle est devenue serveuse, en plus de travailler pour une ONG pour aider en fait sa famille à joindre les deux bouts. Elle se décrit comme socialiste, alors que vous savez, c'est un gros mot ici pour beaucoup d'Américains. Ocasio-Cortez revendique d'être radicale. Écoutez-la dans cette interview sur la chaîne CBS peu après sa prise de fonction.
Eh bien, je pense que seuls les radicaux ont dans l'histoire changé ce pays. Abraham Lincoln a pris la décision radicale de signer la proclamation d'émancipation. Franklin Delano Roosevelt a pris la décision radicale de s'embarquer dans une série de mesures comme la sécurité sociale. Donc oui, si c'est ça que radical signifie, alors appelez-moi radical.
AOC propose notamment de taxer les plus riches à hauteur de 60 ou 70% avec pour objectif de financer un plan environnemental.
Radical, donc. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se laisse pas démonter.
Oui, elle est constamment attaquée sur Fox News, la chaîne conservatrice, et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la semaine dernière, une vidéo postée sur un compte Twitter anonyme a tenté de décrédibiliser la fougueuse démocrate en la montrant en train de danser dans une sorte de clip lorsqu'elle était étudiante sur cette musique. Eh bien, Alexandria Ocasio-Cortez a réussi à retourner la situation à son avantage en postant sur ses réseaux sociaux une vidéo d'elle dansant devant son bureau au Congrès avec ce commentaire « J'entends dire que le Parti républicain pense que les femmes qui dansent sont scandaleuses. Attendez qu'ils découvrent que les femmes parlementaires dansent aussi. »
Ouais, bon, on ne devrait pas s'ennuyer cette année avec ce nouveau Congrès, hein.
Oui, et elles sont décidées à travailler dur, ces femmes. J'ai pu interviewer Ayanna Pressley, première élue noire du Massachusetts.
Je suis si touchée de faire partie de ce congrès, à un moment où notre pays est à un tournant. Je prends cette responsabilité vraiment sérieusement. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie représentative quand tout le monde n'est pas représenté. Donc ça fait chaud au cœur de voir qu'on se rapproche de cela. Mais je vais être très claire et vous dire que ce n'est pas parce qu'on est mieux représenté qu'on va se faire de grandes tapes dans le dos pour se féliciter d'être plus représentatif. Quand vous avez des gens au cœur du pouvoir qui représentent la diversité d'opinion et de pensée, eh bien, c'est mieux pour tout le monde car différentes questions sont soulevées et quand différentes questions sont posées, eh bien, de nouveaux problèmes sont résolus.
Et enfin, je voudrais partager avec vous une dernière image qui a vraiment marqué les esprits. C'est celle des deux premières Amérindiennes élues au Congrès, Deb Haaland et Charisse Davids, qui se sont longuement serrées dans les bras après leur prestation de serment.
Une belle image. Merci beaucoup Sonia pour cette photo de famille. On a bien compris qu'on devrait entendre parler de ces femmes dans les mois qui viennent.
Oui, voire des années. Beaucoup en voient certaines briguer un jour la présidence.
Ok. On remonte le long de la côte Est pour rejoindre Xavier Yvon à New York. Vous êtes toujours là, Xavier ?
Oui, toujours.
Alors ça y est, record battu. Hein, sous la présidence Trump, l'Amérique vit le plus long shutdown de son histoire. Un petit rappel vite fait, le shutdown, c'est le blocage du budget américain et par conséquent la paralysie des administrations fédérales. Et le point de blocage ce coup-ci entre républicains et démocrates, c'est le financement du mur à la frontière mexicaine. Alors avec vous, Xavier, on va voir quelles en sont les conséquences D'abord sur les 800 000 fonctionnaires fédéraux.
Eh bien déjà, ils ont une paye de retard. Ils auraient dû recevoir leur salaire ce vendredi, mais rien. À peu près la moitié sont forcés d'aller travailler sans être payés. Par exemple, les agents qui assurent la sécurité de Donald Trump. Les autres, eh bien, ils restent à la maison et ils commencent à s'organiser pour faire face au manque de revenus parce que pendant le shutdown, il faut quand même continuer à payer les factures, le loyer. Certains cherchent à faire un petit boulot à côté en attendant. Chauffeur Uber, dog sitter, vous savez, c'est les promeneurs pour chiens ici, il y en a beaucoup. Serveur, la communication interne des gardes-côtes a même publié un petit guide pratique pour ses employés. Ça s'appelle « Comment gérer ses finances en cas de shutdown » avec des conseils du genre « Soyez créatif, organisez un vide-grenier, faites du babysitting ou bien donnez des cours du soir ».
Est-ce qu'une solidarité s'organise dans le pays pour les fonctionnaires ?
Oui, tout à fait. Du Colorado à la Floride, des dizaines de restaurants offrent par exemple des repas aux employés fédéraux. On organise aussi des cagnottes sur Internet. Écoutez par exemple Amy Barnes qui travaille au service des douanes à Washington. Elle est au micro de Sonia Dridi.
Des amis m'ont envoyé des choses de façon anonyme. Des repas sont apparus à ma porte. On m'a fait livrer de la nourriture. Ma famille m'a donné de l'argent, des cartes cadeaux. Ce sont parfois des choses qui m'aident à payer mes factures, mais ça m'aide aussi à tenir le coup moralement. Je dois aussi prendre en compte l'impact sur mon compte pour la retraite, mes impôts, tout ça. Par exemple, en 2013, lors du précédent shutdown, j'ai perdu environ 10 000 dollars au total, entre l'argent que je n'ai pas pu mettre sur mon compte retraite, les taxes que j'ai dû payer sur mon chômage, et puis l'argent que je n'ai pas gagné. Et celui-là était plus court que celui d'aujourd'hui. Il n'avait duré que 16 jours.
Alors vous l'entendez, la solidarité et les petits jobs, ça ne suffira pas. Ouais. D'ailleurs, les employés fédéraux comme Amy ont commencé à manifester leur mécontentement un peu partout dans le pays. Et bien sûr, surtout à Washington, qui est une ville fantôme en ce moment. Leur problème, eh bien, c'est que Donald Trump n'a pas beaucoup de considération pour eux. Ce sont généralement pas ses électeurs. Et il ne représente que 1,5% de la population active.
Ouais. Et le reste des Américains, Xavier, est-ce qu'ils sentent les effets du shutdown ?
Alors oui, un peu plus chaque jour. Vous savez, au début, c'est assez indolore pour la grande majorité des Américains. Ce sont surtout les touristes en fait, qui sont touchés parce que les musées et les parcs nationaux sont fermés. Il y a les amoureux des pandas aussi qui ne peuvent plus contempler celui du zoo de Washington qui est très célèbre. La webcam est éteinte. Mais petit à petit, ça devient plus sérieux. Le shutdown étend son ombre. Ici à New York, par exemple, il commence à se voir dans les aéroports. Les files d'attente sont plus longues au contrôle de sécurité parce que les agents des transports se font porter pâle, faute de salaire, certains pour aller faire un autre petit boulot. Plus grave, pour Donald Trump, certains secteurs de l'économie commencent à être touchés. Les agriculteurs, par exemple, qui sont plutôt des supporters du président, ils vont devoir attendre pour recevoir les aides fédérales censées compenser la guerre commerciale de Donald Trump. Et puis, il y a les plus pauvres qui s'inquiètent aussi. 40 millions d'Américains dépendent des coupons d'aide alimentaire. Ils vont continuer à les recevoir en février, mais si le shutdown dure au-delà, cette aide fédérale pourrait s'arrêter elle aussi.
Eh bien, en tout cas, on suivra ça avec vous au jour le jour, Xavier. Merci beaucoup de ces explications. Et puis merci à Sonia aussi, vous étiez l'un à New York, l'autre à Washington. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
À bientôt.
Hop. À suivre, la folle histoire de cette jeune Saoudienne qui a profité d'une escale à Bangkok pour échapper à sa famille. Une histoire qui repose la question du tutorat imposé à toutes les femmes des pays musulmans rigoristes. Dans un instant, on sera à Bangkok.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Sophie Larmoyer. 13h14, après les États-Unis, on va s'intéresser maintenant à un phénomène plus courant qu'il n'y paraît, les tentatives d'évasion de femmes issues des pays musulmans rigoristes.
Depuis une semaine en Arabie Saoudite, la justice a mis en place une réforme présentée comme un progrès, et c'est là le comble. Avant, les maris pouvaient divorcer sans prévenir leurs épouses. Désormais, elles seront prévenues par un texto du tribunal. Youpi ! On est encore très loin de la réforme, la seule qui changerait vraiment quelque chose, l'abolition du tutorat masculin. Pour étudier, travailler ou pour voyager, les femmes ont encore besoin de la permission d'un homme, un père, un mari ou même un fils. Et justement, c'est un peu l'histoire de Raaf, une jeune Saoudienne dont l'histoire a tenu le monde en haleine en début de semaine. Elle s'est échappée de la tutelle de sa famille et son destin s'est joué en Thaïlande à l'aéroport de Bangkok. Raaf a sollicité la protection de la communauté internationale via les réseaux sociaux. Le slogan « Save Raaf » est remonté jusqu'aux Nations Unies. Retour sur quelques heures décisives pour cette jeune fille avec Carole Izou à Bangkok.
Je ne sortirai pas de cette chambre tant que je n'ai pas rencontré la commission aux réfugiés des Nations Unies. Je demande l'asile.
quand elle diffuse cette vidéo sur le réseau Twitter lundi dernier. La jeune Rahaf Al-Kounoun, à peine 18 ans, est barricadée dans une chambre d'hôtel à l'intérieur de l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok. Elle est surtout terrorisée. La jeune fille vient de s'échapper d'une famille qu'elle dépeint comme ultra-conservatrice. « Mon père et mon frère me battent », dit-elle. « Mon cousin a menacé de me tuer. Ils m'ont enfermée pendant 6 mois dans une chambre à cause d'une coupe de cheveux qui ne leur plaisait pas. » Depuis sa chambre d'hôtel, elle explique aussi avoir renoncé à l'islam. Pour elle, pas de doute, si on la renvoie chez elle, elle disparaîtra.
Moi, Rahaf Al-Kounoun, en vertu des conventions internationales, demande officiellement le statut de réfugié pour éviter la mort et la torture par ma famille.
Rahaf a soigneusement planifié sa fuite. Après son 18e anniversaire, elle a profité d'un voyage en famille au Koweït, où les femmes sont autorisées à voyager seules, contrairement à l'Arabie Saoudite. Elle a acheté un billet pour l'Australie, pays pour lequel elle a obtenu un visa de 3 mois, et où elle compte bien demander l'asile politique, aidée par une amie qui s'est enfuie il y a plusieurs années déjà. Elle n'est qu'en transit. Elle doit juste y prendre une connexion pour Sydney. Mais dès sa descente d'avion, des représentants de l'ambassade saoudienne à Bangkok, avec la connivence des autorités thaïlandaises, viennent la chercher. Ils lui confisquent son passeport et veulent la forcer à rentrer au Koweït par le prochain avion. C'est alors que la jeune femme se barricade dans une chambre d'hôtel, crée un compte Twitter, contacte quelques activistes et rapidement se met à communiquer avec le monde entier. Elle appelle toutes les personnes présentes en zone de transit à manifester pour la protéger. « J'en appelle à l'humanité », supplie-t-elle. Pour Phil Robertson, le délégué de l'ONG Human Rights Watch, entré très tôt en contact avec la jeune femme, ce sont véritablement les réseaux sociaux qui ont sauvé la vie de Rahaf.
Les gouvernements essaient de réduire les gens au silence, de cacher ce qu'il se passe. Le chargé d'affaires saoudien a dit qu'il trouvait dommage que la police thaïlandaise ne lui ait pas confisqué son téléphone portable. Dieu merci, ils ne l'ont pas fait, car c'est ça qui a fait toute la différence. Le fait qu'elle puisse tweeter, le fait qu'elle puisse nous dire ce qu'il se passe, qu'elle puisse diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux, en appeler aux Nations Unies, demander l'asile politique, ça a été essentiel au succès de l'opération.
Malgré les pressions, les officiels qui se présentent à sa porte pour l'intimider, qui tentent de forcer le passage, Rahaf tient bon. Elle est finalement autorisée à rencontrer des représentants du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Leur discussion dure près d'une heure. Sous la pression internationale, la police thaïlandaise, pourtant bien décidée au départ à collaborer avec les autorités saoudiennes, est obligée de faire volte-face. En fin de journée, le chef de la police de l'immigration, le général Surachat, annonce que Rahaf ne sera pas renvoyée.
Nous devons encore établir si ce qu'elle dit sur sa vie est vrai, si elle est en danger. Et si c'est le cas, la Thaïlande est le pays du sourire. Nous ne renvoyons personne vers une mort certaine. Nous sommes heureux de collaborer avec les Nations Unies et les autres pays. Nous avons donc décidé d'autoriser la jeune femme à rester jusqu'à ce qu'elle soit envoyée dans un autre pays.
Dès le lendemain, au grand soulagement des dizaines de milliers d'abonnés qui la suivent désormais sur Twitter, Rahaf obtient le statut de réfugié politique. L'Australie et le Canada se sont déclarés prêts à la recevoir. Elle a finalement choisi le Canada. Elle s'est envolée vendredi soir pour la ville de Toronto. C'est là qu'elle va démarrer sa nouvelle vie, une vie où elle sera libre, dit-elle, libre d'étudier et de travailler comme elle le souhaite. Carole Izou, Bangkok, Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1 et on est en ligne avec notre correspondante à Bangkok, Carole Izou. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Cette histoire de la jeune Rahaf a fait grand bruit cette semaine et on a voulu la raconter avec vous, Carole, aussi parce qu'elle n'est pas un cas isolé. Récemment, plusieurs jeunes femmes ont essayé de fuir des pays musulmans très conservateurs vers l'Asie du Sud-Est.
Oui, on se souvient par exemple du cas de Dina Ali Lasloum, une Saoudienne de 25 ans qui avait elle aussi tenté de fuir vers l'Australie. Alors elle, c'était via les Philippines en avril 2017. Elle avait été arrêtée par la police à l'aéroport de Manille et remise à ses oncles. Des témoins ont affirmé à l'époque l'avoir vue être entraînée de force vers un avion pour Riyad, bâillonnée, son corps enveloppé dans un drap. Juste avant, elle avait pu enregistrer un message de détresse sur le téléphone d'une touriste canadienne. « Je m'appelle Dina Mina Ali. Si je rentre en Arabie Saoudite, je mourrai, avait-elle lâché. Depuis, on est sans nouvelles de cette jeune femme. Alors, on a vu également, il y a quelques mois, une vidéo de l'une des filles du cheikh de Dubaï qui commençait par ces mots. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis morte ou dans une situation très grave. Après une tentative d'évasion assez rocambolesque, on est également sans nouvelles d'elle.
On peut penser que le cas de Raaf fera des émules.
C'est en tout cas ce qu'espèrent les activistes, parce que pour des centaines d'évasions ratées, l'histoire de Raaf donne de l'espoir évidemment à des milliers de femmes qui souhaitent quitter ces pays. Depuis cette semaine, sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses d'ailleurs à exprimer leur admiration pour le courage de Raaf et leur espoir de pouvoir suivre son exemple.
Carole, dans le cas de ces femmes qui cherchent à quitter leur pays d'origine, ce qui joue beaucoup en plus des réseaux sociaux, c'est la collaboration ou non des autorités thaïlandaises, philippines ou autres.
Ah oui, c'est fondamental. On l'a vu dans le cas de Raaf. D'abord, la police thaïlandaise, pour des raisons diplomatiques certainement, avait choisi de collaborer avec les autorités saoudiennes. Le père de Raaf est d'ailleurs un haut fonctionnaire dans son pays. Mais sous la pression internationale, les policiers ont changé d'avis. Les pays qui sont signataires de la Convention de l'ONU sur les réfugiés doivent normalement protéger les demandeurs d'asile. Mais la Thaïlande ne l'a pas signé et elle renvoie par exemple régulièrement réfugiés ouïghours vers la Chine. Plus récemment, il y a quelques semaines, un footballeur du Bahreïn, qui est déjà réfugié politique en Australie parce qu'il s'était exprimé contre une famille puissante de son pays, a été arrêté à Bangkok. Il y est toujours en détention, en attente de son extradition.
Espérons que la pression internationale, là encore, jouera un rôle positif. Quant aux Saoudiens qui se rebellent, rappelons qu'une dizaine de militantes qui ont voulu faire évoluer les mentalités sont en prison depuis mai dernier. Et en Arabie Saoudite, et les ONG s'inquiètent beaucoup du traitement qui leur est réservé. Une pensée aussi pour Raif Badawi, ce jeune blogueur qui avait reçu 50 coups de fouet il y a 4 ans en place publique à Jeddah. Il est toujours incarcéré lui aussi. Merci Carole Izou de nous avoir raconté l'histoire de Raaf et de ces réfugiés issus de pays riches mais qui cherchent la liberté. À bientôt.
Et à bientôt Sophie.
Europe 1.
À suivre, la littérature étrangère qui se conjugue sur le continent africain cette semaine dans les carnets.
Europe 1, les carnets du monde.
Et dans les carnets, on voyage aussi dans les livres avec vous, toujours Sophie Larmoyer et notre monsieur littérature Nicolas Carreau.
Et bien le bonjour Nicolas.
Bien le bonjour Sophie.
Attention, cette semaine vous nous emmenez au Nigeria. C'est pas souvent, c'est peut-être même la première fois.
Peut-être, je me suis posé la question, je crois que c'est la deuxième. Mais bon, bref, j'ai été attiré par l'histoire et par la manière qu'a l'auteur de nous raconter justement le Nigeria contemporain. Je me suis dit que pour les carnets du monde, c'était pas mal. Le livre s'appelle « Reste avec moi », édité chez Charleston. L'auteur, c'est Ayobami Adebayo.
Bravo.
L'auteur elle-même est intéressante, nous y reviendrons tout à l'heure. D'abord, le roman, il raconte une banale histoire d'amour.
Banale histoire d'amour, l'enthousiasme.
Attendez, c'est une banale histoire d'amour, mais au Nigeria, et ça change tout. C'est Yejide qui raconte, au début en tout cas, ça change ensuite. Yejide donc est tombée amoureuse d'Akin, un étudiant de son université à Ife, une ville du sud-ouest du Nigeria. Akin lui aussi est tombé amoureux de Yejide, donc tout va bien. Yejide, en plus, est une femme cultivée, libre, indépendante, moderne. Ils se marient, ils sont heureux.
Et ils eurent beaucoup d'enfants.
Eh bien, c'est ça le problème. C'est là où ça commence à coincer. Le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Le problème, c'est qu'Akin, lui, il n'a pas vraiment le choix. Il est l'aîné de sa famille. Il doit un enfant. Le terme n'est pas trop fort. Il doit un enfant à ses parents. Un jour, Yejide voit débarquer sa belle-famille avec une femme inconnue. L'oncle d'Akin, Babalola, dit ceci à Yejide. Eh bien, première femme d'Akin, voici la nouvelle épouse de ton mari. Qui sait, le roi du ciel répondra peut-être à tes prières grâce à elle. Une fois qu'elle tombera enceinte et aura une progéniture, nous sommes persuadés que tu en auras une aussi.
Oui, parce que c'est forcément de la femme que vient le problème.
Eh bien, bien entendu. Surtout, forcément. On comprend comment dans ce Nigeria-là, la modernité est de mise jusqu'au moment où la tradition reprend le dessus. C'est ce que m'a expliqué Danae Touran, responsable éditoriale des éditions Charleston.
C'est un roman qui nous parle de la société nigériane d'aujourd'hui. Et notamment des classes moyennes, ce qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire que les deux héros, Yejide et Akin, ont une vie qui, en fait, quand le roman commence, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Ils vont à l'université, ils se rencontrent à l'université, ils sont libres de leur choix, de leurs études, de la vie qu'ils choisissent. Et en fait, c'est le jour où, 4 ans après leur mariage, ils n'ont toujours pas d'enfants, que la tradition va vraiment s'immiscer dans leur vie. Et en fait, c'est une analyse assez intéressante de la société nigériane d'aujourd'hui, qui est en fait entre cette leur tradition et modernité, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais qu'ils vivent en fait de façon occidentale dans un monde fait de légendes, avec un poids des traditions particuliers.
Et finalement, c'est la tradition ou la modernité qui triomphera ?
Ça dépendra des chapitres, Sophie. En tout cas, Yejide ne se pose pas cette question directement. Pour l'instant, elle doit absolument trouver le moyen de faire un enfant pour sauver son mariage. C'est le point de départ qui nous emmène dans des situations parfois tristes, parfois drôles, par leur grotesque aussi, comme quand on conseille à Yejibe d'allaiter une chèvre pour booster sa fécondité. C'est un roman sur le poids des traditions, mais aussi ultra-moderne, sur la place dévolue aux femmes et qui touche à l'universel, pas seulement au Nigeria.
À propos de femmes, l'auteur, qui est-elle ?
Elle a une trentaine d'années, elle est née et vit au Nigeria, mais son parcours est assez incroyable. Danae Touran.
C'est une jeune femme qui a commencé à écrire très très tôt. À 9 ans, elle écrivait déjà dans des carnets un peu tout ce qui lui passait par la tête. C'était vraiment un moyen pour elle de s'exprimer parce qu'elle était plutôt timide comme enfant. À 19 ans, en fait, elle a eu la chance de suivre une formation d'écriture avec Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une grande auteure nigériane. Et ça a été vraiment un tournant pour elle. C'est vraiment le moment où elle s'est rendue compte que c'était ce qu'elle voulait faire. Et donc, elle est partie étudier en Angleterre l'écriture créative, où elle a notamment eu la chance d'avoir Margaret Atwood comme professeure. Et tous ces enrichissements, en fait, l'ont aidée à écrire son premier roman.
On fait pire comme professeur,
n'est-ce pas ? Margaret Atwood, quand même, enfin, c'est pas le tout de raconter une histoire, encore faut-il le faire avec style. Et on peut dire qu'Ayobami Adebayo a trouvé sa musique, ce qui n'a pas été sans poser problème parfois pour la traduction.
Ça a été un vrai enjeu de traduction pour nous, parce que donc, c'est une auteure qui écrit en anglais, mais dans une langue nigériane, très orale, très vivante, très empreinte de légendes, de dialectes, d'expressions. C'est quelque chose de très vivant, en fait, et c'était assez compliqué de rendre cette musique, de rendre ce côté vivant de la langue en français.
Et le nom du traducteur ou de la traductrice ?
Il s'agit de Josette Chiche-Portiche.
C'est joli, Chiche-Portiche. Ouais. Formidable. Sonne. Reste avec moi donc, Dayo Bami Adebayo, c'est chez Charleston. Et merci beaucoup Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
Et après ce petit détour par l'Afrique, on retourne en Asie, au Cambodge, qui commémorait cette semaine le 40e anniversaire de la fin du régime Khmer. 40 ans, c'est à la fois beaucoup et si peu quand on se rappelle qu'en 4 ans, environ 2 millions de personnes ont été tuées par la dictature. Les séquelles sont encore là. On file à Phnom Penh dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, on sillonne la planète avec vous, Sophie Larmoyer. Et maintenant, à 13h30, cap sur l'Asie, on prend la direction du Cambodge.
Lundi, les Cambodgiens s'étaient donné rendez-vous au stade olympique de Phnom Penh. Plus de 50 000 personnes habillées tout de blanc pour commémorer la chute du régime Khmer il y a 40 ans exactement. Entre 1975 et début janvier 1979, le maoïste Pol Pot transforme le pays en un gigantesque camp de travail. La torture, les exécutions sommaires, la famine deviennent le quotidien des Cambodgiens. Pendant ces 4 années d'enfer, près de 2 millions d'entre eux sont morts victimes du régime de Pol Pot. Pour se souvenir de ce génocide, dans la capitale, un musée a remplacé l'ancienne prison S21. C'est la plus connue des quelques 200 prisons que la dictature Khmer Rouge avait érigées dans le pays. Sébastien Lebelzik y a rencontré l'un des deux derniers rescapés vivants encore de cette prison S21. On y va, c'est à Phnom Penh, reportage.
C'était il y a 40 ans, mais cet instant, Boumeng s'en souvient comme si c'était hier. Artiste peintre avant l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges à Phnom Penh, Boumeng aurait dû être exécuté, comme tous les intellectuels, les artistes, comme sa femme égorgée sous ses yeux par les soldats Khmer Rouges. Mais voilà, Boumeng savait dessiner et il a réalisé l'un des portraits de Pol Pot, le leader Khmer Rouge. Un portrait qui lui a sans doute sauvé la vie.
J'étais détenu ici, dans ce bâtiment, exactement là. Dans la cellule numéro 13. Je suis resté là pendant un an. Et un matin, un des gardes de la prison, il devait avoir 15 ou 16 ans, est venu nous voir, nous les prisonniers. Il a crié à travers les barreaux et il a demandé « Qui s'est dessiné ?» Alors j'ai levé la main. Il est entré dans la cellule, il m'a détaché, et il m'a emmené voir le directeur de la prison.
À 78 ans, Boumeng est l'un des 11 rescapés de la prison S21 à Phnom Penh et l'un des deux seuls encore en vie. Une prison où ont été exécutés au moins 12 000 Cambodgiens entre 1975 et 1979. Boumeng vient ici chaque jour, comme en pèlerinage. Il vient pour témoigner, raconter aux nombreux touristes qui visitent cet endroit et décrire son calvaire.
Je devais rester assis par terre, comme ça. Mes jambes étaient attachées au mur. Les gardes mettaient une barre de fer dessous pour nous accrocher. J'étais là, à cet endroit, exactement.
Il aura fallu attendre le 7 janvier 1979 pour découvrir les horreurs de S-21. Quand les soldats vietnamiens entrent dans Phnom Penh pour déloger les Khmers rouges, ils découvrent ici des charniers avec les prisonniers exécutés et les salles de torture. Aujourd'hui, S-21 est un musée et partout on peut voir les photos des victimes. Un témoignage unique de ce génocide qui a coûté la vie à au moins un Cambodgien sur cinq, comme nous explique le directeur du musée.
C'est un endroit que l'on doit visiter pour comprendre les conditions de détention. On peut voir combien ce régime était cruel et sauvage. Nous incitons les Cambodgiens, les jeunes et les moins jeunes, à venir ici pour qu'une chose pareille ne se reproduise jamais.
Mais beaucoup ignorent toujours au Cambodge l'ampleur du génocide. Seuls 15% des visiteurs du musée sont Khmer. Chanta a 52 ans, elle vient du nord du Cambodge et c'est la première fois qu'elle visite ce musée. Les larmes lui montent aux yeux.
Je suis choquée par ce que je vois. J'ai pleuré et je me suis souvenue de mes proches et de mes parents qui sont tous morts pendant cette époque. Je ne me souviens plus vraiment de leur visage parce que je n'avais que 9 ans à l'époque.
Cette semaine au Cambodge avait lieu une série de commémorations. Si les cicatrices du régime Khmer Rouge sont toujours bien visibles dans le pays, le travail de mémoire est loin d'être terminé. Cette ancienne prison, devenue un musée, est l'un des très rares sanctuaires que l'on peut visiter aujourd'hui au Cambodge et qui est consacré à la dictature Khmer Rouge. À Phnom Penh, Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Sébastien Lebelzik. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors cette rencontre avec l'un des deux derniers rescapés de la prison S21 est vraiment très forte. Et là-bas, vous avez discuté avec pas mal de Cambodgiens qui venaient visiter, hein, parfois très jeunes, dans ce musée de l'ancienne prison S21. Est-ce qu'ils connaissent cette histoire encore récente? Et est-ce que 40 ans après, finalement, le Cambodge commence à tourner la page du génocide Khmer Rouge?
Pas complètement. C'est vrai que le Cambodge est encore très marqué par cette histoire qui est somme toute assez récente.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir que si la prison S21 a été libérée il y a 40 ans exactement par les Khmers Rouges, eux ont continué à être actifs au Cambodge. Ils avaient pris le maquis jusqu'en 1993, ouais. C'est-à-dire avec l'arrivée des casques bleus de l'ONU. Donc chacun au Cambodge connaît encore un Khmer Rouge, soit un bourreau, soit une victime. Mais ce qui est étonnant, c'est vrai, c'est que beaucoup de détails de ce génocide restent encore peu connus. On a entendu effectivement cette dame dans le reportage dont la famille a été décimée et qui n'avait aucune idée des tortures infligées à l'époque à ses proches.
Ouais.
Même chose avec les jeunes Cambodgiens, les lycéens n'en représentent que 7% des visiteurs du musée S21. Donc il y a encore un très gros travail de mémoire à faire. Et
ouais.
puis avec la fin du procès des dirigeants Khmer Rouge, de certains des génocidaires
ouais.
Qui s'est terminé l'an dernier, eh bien beaucoup dans le pays veulent tout simplement oublier et tourner la page.
Il y a quelque chose qui empêche de tourner complètement la page. L'une des traces de cette dictature Khmer, ce sont les mines antipersonnelles qui continuent aujourd'hui d'affecter la vie des Cambodgiens.
Oui, c'est vrai, une grande partie du pays est encore infestée de mines antipersonnelles. C'est le cas notamment de la frontière thaïlandaise. C'est là que les Khmers Rouges avaient pris le maquis et des zones entières du pays sont encore minées. Le travail n'a commencé qu'il y a 26 ans seulement, une fois le départ effectif de cette guérilla Khmer Rouge. Écoutez Pring Panarit, il est le commandant régional chargé du déminage dans cette région de l'ouest du Cambodge.
Nous avons 545 employés et des mineurs au travail. Nos équipes travaillent surtout dans la zone de Battambang, c'est là où se trouve le plus de mines antipersonnelles. Nous avons déjà nettoyé 273 km² et quand ce travail sera terminé, nous pourrons travailler sur la reconstruction des routes et des écoles par exemple.
Voilà pour cette question des mines antipersonnelles, effectivement encore un gros chantier. Sébastien, aujourd'hui l'homme fort du pays, c'est le Premier ministre Hun Sen, en poste depuis plus de 20 ans. Est-ce que ça veut dire que le Cambodge n'est pas encore vraiment une démocratie ?
Oui, c'est vrai, c'est pas encore une vraie démocratie. Il y a 40 ans, un certain Hun Sen, d'ailleurs, lui-même ancien Khmer Rouge, rallié ensuite à l'armée vietnamienne, était entré à Phnom Penh et il est premier ministre du pays depuis maintenant 1998. Oui. Et il renforce régulièrement son pouvoir. C'est un semblant de démocratie, en fait, parce que l'opposition est carrément interdite dans le pays. La presse est sous contrôle, mais beaucoup au Cambodge aspirent aussi, il faut le dire, à la stabilité. Le pays se reconstruit doucement, mais il est encore très dépendant de l'aide internationale, notamment l'aide des pays européens et du Japon. Et puis depuis quelques années, c'est très important maintenant, c'est la Chine qui est aussi très présente et très active au Cambodge.
Merci beaucoup Sébastien pour cette photographie sonore du Cambodge aujourd'hui, 40 ans après la chute du régime Khmer Rouge. Et je vous dis à très bientôt dans les carnets.
À bientôt, au revoir.
Europe 1.
Changement de décor. Dans un instant, c'est aux Antilles qu'on sera pour évoquer un insecticide utilisé massivement jusqu'au début des années 90 et qui a contaminé durablement les sols. Le chlordécone, c'est son nom, débarrassait les producteurs de bananes du charançon. Mais aujourd'hui, sa nocivité est en cause. Mathieu Bock a mené l'enquête en Martinique et en Guadeloupe. À tout.
Europe 1, les carnets du monde.
Des tranches de vie et des reportages. On continue à explorer le monde avec vous, Sophie Lermoyer. Et c'est aux Antilles que vous nous emmenez maintenant avec une histoire de scandale sanitaire. C'est l'histoire d'un perturbateur endocrinien qui empoisonne la vie des Antillais. Son nom, le chlordécone. C'est une molécule massivement utilisée dans les années 70 et 80 comme insecticide. Des tonnes de chlordécone ont été répandues sur les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe avant d'être interdits en 1993 là-bas, 3 ans après la métropole. Cet automne, un colloque était organisé en Martinique pour rassembler les infos connues sur le sujet. Et à cette occasion, Santé publique France a publié une étude qui estime que 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont contaminés à la molécule chlordécone. C'est énorme. Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour Sophie.
Vous étiez aux Antilles avant Noël et vous y avez mené une enquête sur ce chlordécone, à propos duquel d'ailleurs Emmanuel Macron avait parlé de scandale environnemental quand il est allé aux Antilles fin septembre. Vous avez rencontré là-bas des gens contaminés, d'autres qui font de la prévention, certains qui dénoncent une interdiction bien tardive. On va à la fois en Martinique et en Guadeloupe, c'est ça?
Oui, car c'est exactement le même problème auquel sont confrontées ces deux îles.
Bah, alors on y va, on vous suit. Reportage.
En prenant contact avec Jean-Claude Michanol, on pensait qu'il nous emmènerait voir des bananeraies tout autour de sa maison, mais quand on arrive, il décline. Il est trop fatigué pour ressortir, il vient juste de terminer une séance de chimiothérapie au CHU. C'est donc dans sa petite maison de parpaing et de tôle que cet homme de 58 ans nous reçoit avec ses deux fils. Sur la table de la cuisine, il énumère les boîtes de médicaments qu'il vient d'acheter à la pharmacie.
Et là, voilà, cyclovir, Milan, bon, ça c'est après le matin et midi soir. Et j'ai de l'antibiotique aussi, cotrimoxazole.
Si Jean-Claude découvre parfois les noms de ses médicaments, c'est parce que tout cela est nouveau pour lui. On vient de lui diagnostiquer un lymphome, une sorte de cancer du sang. Ce cancer, Jean-Claude est persuadé de l'avoir contracté en travaillant dans les bananeraies pendant près de 25 ans. Il a répandu à main nue des pesticides et notamment du chlordécone au pied des bananiers.
Et au début, on le faisait sans masque. Mais des fois, même lorsqu'on a le masque et qu'on fait les insecticides ou pesticides, on a toujours le goût du produit sous les lèvres. Ça, c'est incroyable, mais on a toujours le goût du produit sous les lèvres. On s'est baigné, on s'est lavé, on a toujours le goût du produit sous les lèvres. On ne ressent pas ça tout de suite, mais peut-être une ou deux heures après, on sent le goût du produit sous les lèvres.
Utilisé pour lutter contre le charançon, un insecte qui ronge le bananier par la racine, le chlordécone a été interdit en métropole en 1990, mais il est resté autorisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993. Marie-Hélène Surelli de la CGT, elle-même ouvrière agricole, est persuadée que le produit a d'ailleurs été utilisé bien après son interdiction.
Ils ont utilisé le chlordécone au-delà, puisqu'ils avaient un stock qu'il fallait l'utiliser. Lors de la prime de fin d'année en 1998, on a retrouvé des sacs de produits sur certaines exploitations. Ils ne peuvent pas le nier, ils le savent. Je suis rentrée dans le secteur agricole très jeune. Les salariés que j'ai trouvés sur place, eh bien, ils sont tous décédés par des cancers. Nous avons des salariés qui ont moins de 50 ans, qui travaillent dans le secteur de la banane, qui sont atteints par le cancer de la prostate. Nous avons des femmes qui travaillent aussi avec nous, qui sont atteintes par le cancer du sein et avec d'autres cancers. Il y a d'autres cancers qui sont dans le secteur agricole. Alors, qu'est-ce qu'on dit ?
qu'est-ce qu'on fait ?
L'État a longtemps été réticent à admettre qu'il y avait un problème avec le chlordécone. Mais aujourd'hui, plus question de faire l'autruche. Il tente de communiquer pour sensibiliser les habitants. Direction la Guadeloupe, à une heure d'avion.
Madame, monsieur, nous sommes arrivés à Pointe-à-Pitre, aéroport Paul-Caraïbes. Il est 15h10 et la température est de 30 degrés.
Ici, la problématique est la même. On est là dans le plus grand hypermarché de l'île, le samedi juste avant Noël. Les Guadeloupéens pressent le pas pour remplir leur caddie de champagne, de cochons locaux et de légumes pays afin de préparer le réveillon. Et pour essayer de toucher un maximum de monde, c'est donc ici que les autorités ont choisi d'organiser une journée d'information. Le but, renseigner les habitants pour savoir si leurs terres sont contaminées et à quel degré. Devant un écran géant monté à côté du sapin en plastique du magasin, un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture zoome sur une carte pour aider les habitants à repérer leur maison.
Au niveau du cimetière, pas loin de la gendarmerie.
Alors,
la
gendarmerie, elle est par là.
Par là, donc ce serait par là.
Là, vous voyez qu'ici, il y a eu des parcelles qui ont été analysées. Et on est en jaune.
On est en jaune. Okay.
Donc, il y a présence de chlordécone. Pas d'élevage, pas de légumes racines. Par contre, on peut faire plein d'autres choses. On peut faire des fruits, on peut faire du jurement, on peut faire plein d'autres choses.
Alors, est-ce que vous êtes rassuré ?
Rassuré, non, pas vraiment. Il faut déjà faire un état des lieux pour savoir où on en est. Donc, c'est important de faire les analyses. Il faut que rapidement, que tout le monde joue le jeu. J'ai grandi là-dedans, on avait une banane tout autour de la maison, il y avait de la bananerie. Parce que je me rappelle que les produits arrivaient jusqu'à sur le balcon de mes parents.
La petite équipe des services de l'État est ainsi restée toute la journée à son stand d'information. Pourtant, seule une cinquantaine de personnes ont demandé à savoir si leur parcelle était contaminée. En Martinique et en Guadeloupe, Mathieu Bock, Europe 1.
Et on retrouve Mathieu Bock en studio avec nous. Quelques précisions, Mathieu. Est-ce qu'on a une idée précise de l'impact de ce pesticide sur les terres et sur l'environnement globalement ?
Alors ce que l'on sait, c'est qu'au minimum 20% des terres agricoles sont polluées. Les autorités sont en train de recenser les parcelles contaminées, on vient de l'entendre, de faire un état des lieux précis, donc ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir. Et c'est une pollution très durable. Les scientifiques estiment que ces sols sont pollués pour une durée, écoutez bien, de 600 à 700 ans.
Wow. Voilà,
c'est incommensurable. Ouais. La conséquence, c'est que la pêche est interdite à proximité de certaines côtes et dans certaines rivières. Les poissons qui y sont prélevés présentent des taux 10 fois supérieurs à la limite autorisée. Et même l'eau potable est touchée à certains endroits. Elle est traitée avec des filtres à charbon, mais parfois ceux-ci sont pleins. Donc la préfecture déconseille aux femmes enceintes et aux enfants de boire l'eau du robinet. Et cela peut durer plusieurs jours.
Alors justement, du côté de la santé des habitants, il n'y a pas d'études formelles qui accusent le chlordécone. Pourtant, vous le disiez dans le reportage, beaucoup pensent que la molécule est responsable de leur cancer. Qu'est-ce qui leur fait penser ça ?
Bien, tout d'abord, le nombre de malades du cancer de la prostate, environ 160 cas pour 100 000 habitants aux Antilles. Ce taux est deux fois plus élevé qu'en métropole. Mmh. Cela dit, il faut sans doute relativiser ces chiffres. À l'Institut du cancer que j'ai contacté, on tempère en soulignant que la population africaine, dont descend l'immense majorité des Antillais, a un facteur génétique qui favorise le cancer de la prostate. Autre élément, le nombre de naissances prématurées pose question. En Guadeloupe, il est trois fois plus élevé qu'en métropole. Une étude de l'INSERM a mis en évidence que l'exposition des mères au chlordécone augmenter le risque de mettre leur enfant au monde plutôt que prévu. Et j'ai rencontré d'ailleurs un avocat qui est le plus en pointe sur le dossier du chlordécone. Il s'appelle Harry Durimel et il nous explique pourquoi les Antillais vont devoir apprendre à vivre avec.
Nous souhaitons voir l'avenir autrement, sortir du catastrophisme parce que maintenant il est établi qu'on est pris pour 700 ans. Donc le nouvel homme guadeloupéen chlordéconé doit aujourd'hui savoir comment vivre pour réduire l'impact de la catastrophe. Les jeunes couples qui se marient, qui envisagent d'enfanter, comme on retrouve le chlordécone dans les cordons ombilicaux, il faut qu'on puisse sevrer les jeunes couples pendant un certain temps, puisqu'ils disent qu'en 5 mois sans chlordécone, permettent d'enfanter sans risque que l'enfant soit chlordéconé depuis l'embryon. Donc c'est sur ça qu'on doit travailler, sur un avenir justement.
Ah, voilà, en métropole, le chlordécone, on le disait, Mathieu, est interdit depuis 1990 dans les îles antillaises, 3 ans après. Mais aux États-Unis, c'est le cas depuis les années 70, qui était sans doute un signe de nocivité. Donc, pourquoi on a autant tardé à l'interdire en France ?
Alors, aux États-Unis, c'est après une intoxication des ouvriers qui travaillaient dans une usine qui fabriquait ce pesticide que le chlordécone a été interdit. Mais en France, la filière de la banane est contrôlée par les Becquets, ces familles descendantes des colons. Ils sont à la tête d'un lobby très puissant et ont poussé les politiques à garder ce produit miracle. Ils ont même obtenu une dérogation pour continuer à l'utiliser jusqu'en 1980. 1993 aux Antilles afin d'écouler les stocks. Depuis 2006, plusieurs procédures judiciaires ont été lancées. Plusieurs associations guadeloupéennes et martiniquaises ont porté plainte contre l'État pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. Depuis, ces trois plaintes ont été réunies en un seul dossier, instruit par le même juge d'instruction à Paris.
2006, il y a 12 ans donc. La suite au prochain numéro. Merci Mathieu pour cette enquête de terrain sur la chlordécone, cette molécule qui affecte nos compatriotes en Martinique et en Guadeloupe. À bientôt.
À bientôt.
Et c'est Joseph qu'on va retrouver dans un instant, Joseph Chovanec, pour un petit voyage en Autistan qui observe ce qui se passe la nuit.
Europe 1, les carnets du monde.
Suite et fin de notre tour du monde en compagnie de Sophie Larmoyer. Comme chaque dimanche, on a rendez-vous en Autistan avec Joseph Chovanec, Sophie. L'autistan, c'est un peu partout dans le monde en fait, car c'est une manière de regarder autour de soi, de rencontrer les gens autrement, et on y accède avec un guide, le nôtre, c'est bien sûr Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde, assalamu alaikum.
Et vous êtes toujours en vadrouille dans la péninsule arabique à Oman, inspiré aujourd'hui par la vie nocturne.
Eh oui Sophie, je n'aime pas les boîtes de nuit hein, parce qu'elles sont mensongères, ce ne sont pas des boîtes avec de la nuit dedans. Par contre, comme la plupart des autistes, je préfère vivre la nuit et en voyage, j'observe très logiquement ce qui se passe autour de moi.
Et alors, résultat ?
Ma bilan des observations, contrairement à une idée répandue, rien ne dit que les Occidentaux soient les seuls à avoir une vie nocturne festive, par exemple. C'est le contraire qui est vrai. Dans beaucoup de cultures du monde, même jugées traditionnelles ou non occidentales, il est considéré comme normal de ne se lever que fort tard et de se divertir tous les soirs. Lorsque j'avais vécu à Téhéran, j'avais remarqué que cette immense cité s'éteignait à la tombée de la nuit. Ça me convenait très bien, l'avoue. Hein. Ceci étant, mes amis iraniens m'ont expliqué que le silence des rues de Téhéran était dû au fait que les Iraniens aiment se divertir en famille le soir, sachant qu'une famille iranienne compte en général non pas deux ou trois personnes, mais 30, 50, voire plus. Intéressant paradoxe, le silence des rues en tant que preuve de la vie sociale.
Excellent. Et là où vous êtes à Oman, vous expérimentez la nuit, Joseph ?
Mais oui, Sophie, hier, j'ai revu une ville que j'aime bien, à savoir Sour. C'est la ville arabe la plus orientale du monde, en face des Indes, la ville de Sindibad, le marin. Dès la tombée de la nuit, les rues de la ville sont parfaitement silencieuses, voire noires. On pourrait dire ville morte. Mais à ceci près que lorsqu'on passe devant les plages de la ville, on peut observer quantité de silhouettes qui se découpent sur les étoiles du ciel. En fait, tout le monde est là, discutant paisiblement. En petit groupe face à l'océan noir. Je l'avoue, je ne sais pas jusqu'à quelle heure il est de coutume de rester sur la plage à Sour. C'est à l'autre bout du monde arabe que j'ai eu un élément de réponse à Dakhla, tout au sud du Maroc, près de la Mauritanie. J'avais posé cette question à des amis. Ils m'ont confirmé qu'il était usuel de rester discuter jusqu'à environ 2 heures du matin à la plage s'agissant des familles. Et l'école là-bas est exprès décalée, commence un peu plus tard.
Parce que les enfants aussi veillent.
Mais oui, Sophie, à Dakhla, les enfants sont de la partie. On n'y songe pas beaucoup. Mais pourquoi notre société occidentale s'obstine à exclure les enfants de la vie nocturne ? Les soirées de socialisation, grâce à la présence nombreuse d'enfants, deviennent beaucoup plus sympathiques. En anglais, on dirait « family friendly », en propre comme au figuré. Hein. Concrètement, on se baigne la nuit, on mange des huîtres ou des moules fraîchement tirées de l'eau, on compare les types de miel, on apprend les histoires locales, autant d'activités idéales pour petits et grands. Ouais. Et je crois que tel est le rôle véritable de la vie nocturne, bâtir les sociétés, bâtir les humains. Et une fois, j'avais demandé à un homme français croisé au hasard des rencontres et qui se décrivait comme ancien fêtard ce qu'il avait retiré de ses années de fête nocturne. Il avait été embarrassé pour répondre et a fini lui-même par avouer pas grand-chose.
Et vous, Joseph, qu'est-ce que vous retenez de vos expériences nocturnes ?
Peut-être que les moments de ma vie où j'ai appris le plus de choses ont été ces nombreuses soirées thé et poésie que j'ai eu la chance de passer en Iran ou dans d'autres pays d'Asie centrale. Pour citer librement Jalaluddin Rumi, peut-être le prince des poètes soufis, les mots ne sont qu'un prétexte, c'est le lien intérieur qui unit les humains. Et sachons chérir ce secret de nos nuits.
Bon, j'espère quand même que les mots de la radio tisse aussi des liens, en tout cas je le crois. Merci beaucoup Joseph. Il faudra un jour qu'on tranche, hein. Sindbad ou Sindibad alors
En arabe c'est Sindibad et pas Sindbad, ah, c'est une déformation européenne.
Merci beaucoup Joseph, à dimanche prochain.
À très bientôt.
Europe 1.
C'est la fin des carnets. On referme le grand livre sonore de la rédaction d'Europe 1. Merci de nous avoir accompagnés. Vous savez que le podcast de l'émission est tout à vous sur notre site europe1.fr. Vous pouvez même vous abonner et écouter et partager sans modération. Un grand merci à Sophie Mallier qui réalise les carnets, à Florence Gimalac qui m'aide à les préparer. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.